Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Cold Fusion. Pourquoi mon patron est-il si incompétent? C'est une question que vous vous êtes probablement déjà posée. Si vous acquiescez, cette vidéo est faite pour vous. La réponse réside peut-être dans un concept appelé le principe de Peter. Au départ une plaisanterie, c'est devenu un phénomène mondial, étudié même dans les meilleures écoles de commerce. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi les bons employés deviennent les pires managers. Vous pensez peut-être que votre patron est incompétent, mais ce n'est peut-être pas de sa faute s'il est si mauvais dans son travail. Cela peut paraître déroutant, mais c'est intéressant. Allons droit au but, vous.
Regardez Cold Fusion TV.
Avant de commencer, un petit point de détail. Sachez que les épisodes de Cold Fusion sont désormais disponibles sur Spotify, vous pouvez donc les regarder si vous le souhaitez. J'ai vu des ingénieurs compétents être promus à des postes de supervision. Ils excellaient dans la gestion des choses, mais étaient incompétents dans la gestion des personnes. J'ai observé ce phénomène à maintes reprises et je l'ai appelé le principe de Peter. En résumé, le principe de Peter stipule que les employés qui gravissent les échelons de l'entreprise deviennent inévitablement incompétents. L'idée a été formulée par le hiérarchologue et professeur canadien Lawrence J. Peter et présentée pour la première fois sous forme de satire dans le best-seller de 1969, Pourquoi les choses tournent toujours mal. En pratique, cela ressemble à ceci. Voici le responsable de bureau, Monsieur James Harrison. James est un ingénieur logiciel senior qui fait des heures supplémentaires pour résoudre des problèmes de produits dans une grande entreprise. Il se surpasse. James vient de verser un acompte pour une maison. Il se démène donc pour obtenir une promotion. Alors, lorsque le responsable de l'ingénierie de l'entreprise démissionne, les grands patrons convoquent James dans un bureau. Recruter à l'extérieur est toujours risqué, dit-on. Alors, James se voit proposer le poste. Alors, il l'accepte. Son travail acharné a payé. Son salaire augmente et il obtient un nouveau poste. Mais le problème, c'est que son travail est désormais entièrement humain, sans aucune technologie. Il gère une équipe de développement logiciel. Il supervise les tests et est chargé de résoudre les problèmes de production dès qu'ils surviennent. Et il n'a jamais à redouter les évaluations de performance. Malheureusement, maîtriser le code est une compétence différente de manager des personnes. Il se sent dépassé et a du mal à lâcher prise. Il microgère et ne parvient pas à communiquer efficacement les informations essentielles à l'équipe. Et c'est ainsi que James a atteint son niveau d'incompétence. Mais ce n'était pas de sa faute, je l'expliquerai plus tard. La logique est simple. Les employés sont promus en fonction de leur performance actuelle et non de leur perspective future. Ainsi, lorsqu'un employé gravit les échelons de l'entreprise, il assume davantage de rôles ou de responsabilités managériales qui exigent des compétences totalement différentes de celles qui l'ont amené à ce poste. S'il ne s'adapte pas, il ne sera plus promu. En revanche, s'il réussit à ce niveau, il sera promu encore et encore, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une situation où il aura du mal à performer. Le résultat final est qu'il reste bloqué à ce niveau, tout en étant incompétent. Ce principe ne se limite pas aux personnes, mais s'applique aussi à la technologie et à l'innovation. Prenons l'exemple de Kodak, Blockbuster et BlackBerry. Des entreprises qui ont stagné en matière d'innovation, faute d'avoir su identifier et exploiter les nouvelles opportunités. Existe-t-il donc des preuves solides soutenant le principe de Peter? Dans quelle mesure ce principe est-il vrai? En 2009, Google souhaitait former de meilleurs managers. L'entreprise a donc lancé le projet Oxygen, qui a étudié plus de 10 000 observations. Il a été constaté que, de toutes les compétences, les connaissances techniques étaient la moins importante pour être un bon manager. Un groupe de professeurs du MIT, de l'université Carlson et de Yale a entrepris de prouver le principe de Peter. Ils ont étudié les données de 214 entreprises afin de vérifier si les commerciaux les plus performants étaient susceptibles d'être promus au poste de directeur des ventes. Effectivement, c'était le cas. Mais voici le hic. Les études ont également révélé que les meilleurs commerciaux étaient les pires managers.
Ça ne coûte que 99$. C'est exact, c'est 99$. C'est un prix incroyable, mais c'est vrai. C'est Windows de Microsoft. Commandez dès aujourd'hui.
Steve Ballmer était un excellent vendeur. Mais lorsqu'il a été promu PDG de Microsoft, il a raté plusieurs produits, en a livré de mauvais et a même ri à la sortie de l'iPhone. Si je puis me permettre, Zoom commençait à gagner du terrain et Steve Jobs est allé à Macworld et a sorti cet iPhone. Quelle a été votre première réaction en voyant ça? $500 entièrement subventionnés avec un forfait. Je me suis dit, c'est le téléphone le plus cher du monde et il ne plaît pas aux clients professionnels car il n'a pas de clavier, ce qui en fait un très bon outil de messagerie. Ou prenez John Sculley, le génie du marketing à l'origine du test de dégustation Pepsi. Steve Jobs a vu le succès et a recruté John chez Apple. Et que s'est-il passé? John Sculley a viré Steve Jobs, et c'était à cause de leur désaccord sur la production du Macintosh, un ordinateur coûteux mais avant-gardiste. Sculley lui-même a déclaré plus tard que son embauche était une grave erreur. Il y a aussi Dick Fu, de Lehman Brothers, un excellent trader, mais un PDG terriblement incompétent, qui était aux commandes lorsque la plus grande faillite de l'histoire est devenue un symbole mondial d'échec. Dick Fu est accusé d'avoir tout misé pendant sa croissance, puis d'avoir obstinément refusé de reconnaître la situation désastreuse de l'entreprise pendant sa chute. Mais il est intéressant de noter que ce problème ne se limite pas à notre époque. L'incompétence des patrons remonte peut-être à des siècles. Une pièce de 1763 de Gotold la mettait en scène un sergent. Mais il y a une réplique de la pièce qui pourrait vous sembler familière. Lorsqu'il refuse l'opportunité de gravir les échelons, le personnage principal déclare, je cite, « Je suis un bon sergent. Je pourrais facilement faire un mauvais capitaine, et certainement un général encore pire. L'expérience le sait. » Fin de citation. Dans son ouvrage « Psychologie de l'incompétence militaire », le psychologue Norman F. Dixon relie certains des pires échecs militaires de l'histoire à la promotion d'officiers basée sur leur réussite aux grades inférieurs. En résumé, on apprend aux officiers subalternes à être autoritaires, disciplinés et obéissants. Or, en tant que leader, ces traits de caractère sont précisément ce qui les rend arrogants, enclins à la pensée de groupe et réfractaires au changement. En bref, de bons subordonnés ne deviennent pas de bons leaders. Cependant, bien que certaines preuves existent, les humains sont des êtres complexes et d'autres facteurs peuvent entrer en jeu. L'économiste américain Edward Lasia conteste le principe de Peter. Il soutient qu'au lieu d'un problème dans la structure de promotion de l'entreprise, les employés ont tendance à régresser vers la moyenne, ce qui explique que leurs compétences apparaissent plus faibles après une promotion, purement statistique. En termes simples, les employés se donnent à fond pour obtenir une promotion, mais cet effort et cette productivité accrue ne sont pas durables. Ainsi, une fois promus, les employés reviennent à leur rythme normal. De l'extérieur, on a simplement l'impression qu'ils sont mauvais dans leur travail. Quant à James Harrison, notre protagoniste, son entreprise a perdu un ingénieur logiciel compétent et a recruté un manager incompétent. Alors pourquoi de bons employés deviennent-ils de mauvais patrons? Des recherches montrent que lorsque les employés deviennent patrons, ils se sentent dépassés, ce qui conduit à la microgestion. Dans un article universitaire, le professeur Richard DeWitt Jr. explique « Nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à passer du statut d'employé à celui de superviseur. Et s'ils sont incapables d'exercer leur nouveau poste, ils microgèrent ceux qui occupent leur ancien poste. » Fin de citation. Alors, quel est l'effet de tout cela? Les patrons sont-ils réellement un obstacle? Inhibent-ils l'efficacité de leurs subordonnés? Eh bien, il s'avère qu'avoir un mauvais patron fait de vous un pire employé. Les patrons incompétents ont un impact direct sur l'engagement des employés et sont source de stress plus que tout autre facteur. En fait, plus votre patron est mauvais, plus vous risquez d'avoir de graves problèmes de santé, comme une angine de poitrine ou même une crise cardiaque. On ne quitte pas une entreprise, on quitte son patron. Et croyez-le ou non, cela a entraîné 223 milliards de dollars de coûts de rotation du personnel au cours des 5 dernières années. Au total, une méta-analyse de 57 études a révélé que les dommages causés par de mauvais patrons dépassent les bienfaits que peuvent apporter des managers compétents. Jim Clifton, président de Gallup, explique, je cite, « qu'aucune récompense excellente, aucun parcours professionnel bien pensé, aucun environnement de travail stimulant, aucun programme d'aide aux employés, PAE, aucune assurance maladie ni aucun autre avantage ne fera une grande différence pour les personnes coincées avec de mauvais patrons. Alors, si seulement 1 sur 10 d'entre nous possède réellement les qualités requises pour être un bon manager, et que, de plus, seulement 38% souhaitent occuper un poste de manager, sommes-nous tous condamnés à l'incompétence ? Si nous trouvons un moyen de dépasser le principe de Peter, les entreprises auront des clients plus satisfaits, les employés auront moins de congés maladie et seront plus productifs, et la situation sera beaucoup plus sûre. Mais que faudrait-il faire ? Le principe de Peter révèle certes certaines failles de la méritocratie, mais la solution ne consiste sûrement pas à cesser de promouvoir les employés en fonction de leurs compétences, n'est-ce pas ? Dans son livre « The Meritocracy Trap », Daniel Maravitz, professeur de droit à Yale, écrit que la solution au surmenage, aux inégalités et au stress réside dans une méritocratie comprimée, où l'on accorde davantage de crédit aux employés moyennement qualifiés. Et alors, il promeut les employés latéralement plutôt que vers le haut? Cette étude de Samuel Curtis Johnson, de la Graduate School of Management, a révélé que les évolutions de carrière latérale devraient précéder toute promotion et peuvent contribuer à former des dirigeants compétents. C'est là que les choses se corsent. Lorsqu'un groupe de chercheurs italiens a entrepris de tester le principe de Peter, ils ont découvert que la stratégie de promotion la plus efficace était celle qu'une entreprise n'oserait jamais tenter. Ils ont mis en place une simulation informatique basée sur des agents d'une hiérarchie d'entreprise typique, puis ont utilisé des modèles mathématiques pour tester la méthode courante, en promouvant les meilleurs employés ainsi que des idées prometteuses ou novatrices. Voici ce qu'ils ont découvert. Pour contourner le principe de Peter, les entreprises devraient soit promouvoir leurs employés de manière aléatoire, soit promouvoir les meilleurs et les moins bons employés. C'est une idée très atypique qui s'inscrit dans le paradoxe de Pando, une théorie des jeux où combiner des stratégies perdantes peut mener à une victoire. En bref, deux erreurs font une vérité. En 2001, des chercheurs de l'Université du Texas à Dallas ont constaté la même chose. Les promotions aléatoires étaient plus efficaces que les stratégies de promotion classiques. Il existe également le système « Up and Out », lancé il y a plus d'un siècle par Paul Cravat. Il est utilisé par des cabinets d'avocats de renom comme McKinsey, BCG, Bain et d'autres grands cabinets d'avocats. En substance, ce système « Up and Out » suppose que les nouvelles recrues gravissent les échelons jusqu'à devenir associées dans un délai précis, sous peine d'être licenciées. Selon Peter lui-même, les employés peuvent et doivent éviter d'atteindre leur niveau d'incompétence en prétendant être juste assez compétents pour ne pas être licenciés, mais trop compétents pour une promotion. Alors peut-être que tous les membres de la génération Z qui démissionnent ont-ils raison ? Devons-nous passer notre vie à accepter sans cesse la récompense suivante, à courir comme un écureuil en cage, à nous battre pour la carotte sur un bâton ? Ou devrions-nous utiliser notre capacité à être rationnel et à réfléchir à notre avenir ? Quel est le but de ma vie ? La récompense par la promotion est-elle la meilleure pour moi ou existe-t-il d'autres récompenses dans d'autres aspects de la vie ? Telle est la question. Je voulais aborder ce sujet car il semble qu'aujourd'hui plus que jamais, de nombreuses entreprises soient dirigées par des personnes qui ne sont clairement pas les mieux placées pour le poste. Je voulais donc approfondir certaines raisons de cette situation. Mais j'ai aussi une question. Si un nouveau système de promotion était mis en place dans votre entreprise, lequel préféreriez-vous ? Promotions aléatoires, promotions latérales, promotions par échelon ou système de promotion par échelon ? Si vous êtes manager, j'espère que cet épisode ne vous a pas trop offensé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à consulter d'autres vidéos sur cette chaîne. L'épisode précédent a été un peu négligé, mais c'était une histoire incroyable sur la façon dont un bug informatique a envoyé des milliers d'innocents en prison, et personne n'a cru ses victimes pendant plus de 10 ans. C'est assez intéressant, je vous laisse donc un lien ci-dessous. Maintenant que nous comprenons clairement pourquoi votre patron est peut-être incompétent, il pourrait être intéressant de réfléchir à votre parcours professionnel. Avez-vous déjà réfléchi à la durée d'une carrière ? En moyenne, cela représente environ 80 000 heures de votre vie. Il est donc important de prendre le temps de la planifier. Et c'est là que l'association 80 000 heures peut vous aider. Après 10 ans de recherche avec des universitaires de l'université d'Oxford, ils ont imaginé des parcours professionnels parmi les plus enrichissants. Des carrières qui contribuent à résoudre certains des problèmes les plus urgents du monde. 80 000 heures propose un site d'offres d'emploi constamment mis à jour avec des centaines d'offres d'emploi actives qui, selon eux, pourraient vous aider à avoir un impact important. Vous pouvez filtrer les offres d'emploi par lieu, type de poste, exigence et problématique. Je tiens à souligner que tout ce qu'ils proposent est gratuit. C'est une association à but non lucratif. Leur seul objectif est de vous aider à trouver une carrière épanouissante et à fort impact. Par exemple, je pense que le parcours professionnel de la sécurité de l'information dans des domaines à fort impact est crucial et que la demande augmentera avec le temps. Ils ont d'ailleurs consacré une analyse de carrière complète à ce sujet. Rendez-vous sur 80000hour.org/coldfusion pour recevoir gratuitement un exemplaire de leur guide de carrière détaillé qui vous aidera à comprendre les clés d'une carrière à fort impact. Trouvez de nouvelles idées pour des parcours percutants, élaborez un plan basé sur ce que vous avez appris et mettez-le en pratique. Voilà pour 80000hour.org/coldfusion. Bon, je m'appelle Dogo et vous avez regardé Cold Fusion. À bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Bonne lecture. Cold Fusion. C'est une nouvelle façon de penser.